2016, mouvement contre la loi travail. Puis, la même année, naissance du mouvement citoyen Nuit Debout. 2017, arrivée du projet loi travail 2, lui aussi contesté. 2018, le mouvement des gilets jaunes apparaît à l'automne, peu de temps avant que les lycéens ne manifestent contre le projet de réforme du baccalauréat et de l'orientation. Puis, fin 2019, des milliers de Français s'opposent au projet de réforme des retraites, un mouvement toujours en cours, même si affaibli. Depuis 4 ans, avec un plus ou moins grand succès, les rues de France et de Rennes ont été émaillées de manifestations, pour certaines avec ce que la presse présente comme des débordements, dégradation de mobilier urbain, violences, etc. Sans oublier évidemment les violences policières dont le bilan humain est bien plus lourd. À travers le monde, on peut parler d'une multiplication des émeutes, manifestations publiques de citoyens, où il est fait usage de la violence. Par exemple, en Bolivie, au Chili et au Liban, à l'automne 2019, ou encore à Hong Kong, un peu plus tôt dans l'année. Les sources de ces mouvements sociaux sont diverses. Situation économique, politique, ces émeutes sont en tout cas le lieu pour les manifestants où exprimer leur impouvoir de la vie quotidienne et constituent à la fois une rupture dans le dialogue et, comme l'exprimait Norbert Elias, écrivain et sociologue, une libération finalement très contrôlée de ses propres pulsions. Plutôt qu'aux Black Blocs, ces manifestants anticapitalistes radicaux, reconnaissables à leur code couleur vestimentaire, l'invité du jour préfère s'intéresser au cortège de tête qui se laisse gagner par la passion émeutière. Sa stratégie, parvenir à faire sortir la manifestation des clous et du cadre légal prévu et encadré par les forces de l'ordre. Les émeutes sont un lieu particulier en ce qu'elles représentent une épreuve charnelle de la politique. Les figures du pouvoir sont directement palpables, incarnées dans ces forces de l'ordre justement. Alors qu'est-ce que la violence a d'attractif? Quelles sont les cibles des émeutiers? Quelle est la finalité de l'émeute? La victoire politique ou tout simplement le vertige de l'affrontement lui-même? Élément de réponse tout de suite, bienvenue dans Chercheurs en ville. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chercheurs en ville. Aujourd'hui, notre invité est Romain Huette. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en sciences de la communication à l'université Rennes 2, chercheur au préfixe pour plurilinguisme, représentation, expression francophone, information, communication, sociolinguistique, je suis arrivée, également chercheur associé à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Vos recherches portent sur le rapport entre souffrance et lutte sociale. Dans cette émission, vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et à côté de vous, Christian Lebar pour la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne. Bonjour Christian.
Bonjour Lucie, bonjour à tous.
Colette, je vous laisse la parole.
Romain Huette, vous avez publié Le vertige de l'émeute de la ZAD aux Gilets jaunes. Cet essai sur l'émeute, comment s'inscrit-il dans votre parcours de recherche ?
Bah écoutez, depuis quelques années, je travaille sur la question de la souffrance sociale et en particulier dans une association de prévention contre le suicide où j'analysais la façon dont un certain nombre de personnes exprimaient un désaveu parfois radical pour la vie, une lassitude morale, etc. Et l'idée, c'était de travailler politiquement en fait ces récits et d'observer justement comment les personnes en proie à des idées suicidaires peuvent exprimer une certaine violence, généralement à l'égard d'eux-mêmes. Et puis dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de partir en Syrie pour analyser la souffrance en situation de guerre, c'est-à-dire dans un tout autre contexte, c'est-à-dire un moment où les personnes en demandent réparation auprès de l'ordre social, alors demandent réparation ici de façon tout à fait radicale. Et c'est ainsi que je me suis immergé dans deux brigades syriennes, deux brigades de combattants, une de l'armée syrienne libre à Alep et une seconde du front islamique à Hama entre 2012 et 2018. Et à mon retour, en fait, pendant mes voyages, j'assistais en France à un certain nombre de manifestations, en particulier pendant la loi travail et après, et bien sûr avec les gilets jaunes, dans lesquelles je voyais une violence qui n'a rien à voir, qui est incomparable, mais une violence de très très faible intensité.
Les premiers affrontements ont débuté lorsque les gilets jaunes ont voulu forcer les barrages qui les empêchaient d'aller manifester place de la Concorde ou encore aux abords de l'Elysée. Des affrontements violents ont eu lieu avec les forces de l'ordre, jets de projectiles, de pavés, barricades enflammées, auxquelles les forces de l'ordre ont répondu par des tirs nourris de gaz lacrymogène ou de canons à eau.
Extrait d'un reportage sur l'acte 2 des gilets jaunes à Paris, diffusé sur TV5 Monde le 24 novembre 2018.
Et c'est à ce moment-là que j'ai eu pour désir en fait d'essayer de comprendre d'abord sur le terrain guerrier comment un individu ordinaire, c'est-à-dire non préparé à la guerre, en vient à accepter de tuer et de mourir pour des fins politiques. Et deuxième question, c'est finalement qu'est-ce qui fait la quotidienneté de la guerre, qu'est-ce qui rend la violence, qu'est-ce qui dans la violence pardon a un pouvoir un peu attractif. Quoi. Et le terrain émeutier était très pratique pour cela parce que, comme c'est de très faible intensité, c'est assez facile d'observer la dimension sensible, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on éprouve affectuellement dans le moment de l'émeute. Et au fond, toute ma question, c'est d'où réside le pouvoir attractif de l'émeute. Et donc l'articulation, elle est encore délicate, je suis encore en train de la travailler évidemment, c'est le rapport évidemment entre souffrance et violence, avec cette idée selon laquelle le sentiment que la vie est injustifiée peut conduire à des formes de débordement et notamment en fait des formes de violence.
Vous dites que vous avez participé à une cinquantaine ou soixantaine de manifs, que ce soit donc les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, Loi Travail, Parcoursup, les Gilets jaunes. Vous signifiez dans votre essai d'emblée que vous n'êtes pas le porte-parole des émeutiers. Vous n'encouragez pas leurs actes, vous ne les condamnez pas non plus. Votre livre n'est ni une histoire, ni une sociologie de l'émeute. Vous avez décidé d'être avec les participants, d'être au plus près, d'être dans le cortège de tête. Pourquoi avez-vous choisi cette extrême proximité, être avec, être dedans ?
Écoutez, c'est pour moi ce qui est assez clair. Effectivement, vous l'avez souligné, c'est un travail qui ne consiste certainement pas à qualifier moralement ou à disqualifier moralement ce que font les individus. En fait, moi, ma pratique de recherche est très ethnographique. Hein, elle est tout à fait classique. Elle est finalement de vivre à l'intérieur du phénomène, c'est-à-dire d'être dans une ouverture assez radicale à ce que les gens sont en train de faire, y compris d'ailleurs quand on peut avoir des désaccords avec ce qu'ils font. Mais mon projet, c'était pour qui veut comprendre la dimension sensible d'un phénomène. On peut pas simplement être dans une position de pure extériorité, de susciter du discours. Je sais que bon, en recherche, on aime beaucoup en fait faire des entretiens, on aime beaucoup solliciter la parole, faire dire aux personnes ce qu'ils ressentent, etc. Mais il me semble que par cette méthodologie, on arrive relativement peu à saisir ce qui se joue dans le ici et le maintenant de l'événement émeutier, par exemple. Et donc moi, il était très clair qu'il me fallait ressentir entre guillemets corporellement le phénomène, et c'est là où j'emprunte d'ailleurs à Loïc Vacan cette idée de sociologie de chair et du corps qui est une façon en fait d'appeler à éprouver corporellement le phénomène pour finalement essayer de restituer une expérience. Et moi à la limite je serais assez content si par exemple quelqu'un qui pratique l'émeute peut se projeter en fait dans ce récit que je suis en train de faire, c'est-à-dire que c'est un récit dans lequel qui pourrait coïncider en fait avec ce qu'il éprouve réellement, quoi.
Christian Levar.
Oui, je voudrais revenir évidemment sur cette posture de recherche qui est absolument passionnante, hein, qui fait toute la valeur du livre, et donc qui consiste... Alors effectivement, il y a une tradition, hein, vous n'êtes pas le premier, en particulier ethnographique, qui consiste à saisir le social à chaud et de l'intérieur. Et du coup, ça pose toujours la question est-ce qu'on est juste petite souris et on essaie de faire comme les autres pour faire croire, pour se fondre dans la foule et pour observer ce que les autres font, mais là on reste à hauteur d'observation de comportement, où là vous allez beaucoup plus loin, vous dites je deviens, je suis comme eux et je vais donc ressentir intérieurement, subjectivement ce que eux ressentent, donc je suis un des leurs. C'est pas je m'habille comme eux pour faire croire que je suis un des leurs, c'est que je suis effectivement un des leurs. Alors évidemment ça pose des questions d'implication du chercheur et j'ai envie de poser la question des priorités identitaires. C'est-à-dire est-ce que à ce moment-là, quand vous êtes parmi les manifestants, vous êtes un chercheur qui fait du terrain avec un protocole audacieux, ou est-ce que vous êtes un manifestant qui, parce qu'il est chercheur, ma question est vache, hein, se pose la question, je vais peut-être en tirer quelque chose dans le cadre de mon activité professionnelle.
Alors, on est sur un sujet particulièrement critique, en tout cas une situation limite, et dans lequel effectivement votre question elle est tout à fait pertinente. Il est assez difficile d'y répondre, mais je pense que ce qui est certain pour moi, c'est que je n'ai pas eu envie effectivement d'avoir une espèce de position d'extériorité qui feindrait un être avec, alors que finalement au fond il y a pas cet être avec. Donc d'une certaine manière, il y a eu un mouvement en fait de sympathie à l'égard de ce que les gens sont en train de faire. Enfin, en même temps, c'est la condition de l'ethnographie que d'accueillir en fait ce que les gens sont en train de faire. Et en même temps, il y a eu aussi un moment de contre-effectuation, de retrait en fait vis-à-vis des pratiques que je pouvais observer. Et c'est là où l'écriture a joué un rôle extrêmement important pour moi. Et je dirais que beaucoup de chercheurs en fait ont tendance, on a tendance à voir la recherche comme un moment où j'ai une question de recherche, je vais rechercher le terrain qui correspond en fait à ma question de recherche, je vais élaborer mon protocole méthodologique et puis je vais aller sur le terrain et je vais restituer. Je peux pas dire moi que ça s'est fait exactement de la même manière. Ça s'est fait, c'était un peu un flâneur en fait, hein, en retour de Syrie. J'observais ce qui se passe parce que je suis quelqu'un aussi d'attentif en fait à la situation politique. Et c'est à mesure en fait que j'étais en train de voir ce qui se passait devant moi que j'ai eu envie d'écrire progressivement. Et c'est là où justement on opère cette distance évidemment avec le phénomène. C'est-à-dire que moi, ma position est très claire. Je suis là pour écrire l'émeute, pour essayer de l'approcher, de la donner, la donner à comprendre dans certains aspects.
Mais... avec un jeu absolument passionnant de dualité dans l'énonciation, c'est-à-dire que parfois c'est le chercheur qui écrit et parfois c'est le chercheur cite un journal de terrain qui est, alors là pour le coup, plus ambigu, puisque le journal de terrain, il est écrit par les deux morceaux de cette identité que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois le manifestant et le chercheur. Donc il y a des phénomènes d'écho, de distance. En tout cas, il y a une distance à l'objet qui n'est pas la même entre le journal de terrain et l'analyse effectuée plusieurs mois après.
Après, ce qui est clair, c'est que j'ai pas mené en fait, j'ai pas cherché, en tout cas encore moins dans ce livre, à interroger en profondeur la position que je pouvais avoir vis-à-vis de mon objet, de mon terrain. Ce qui est certain, c'est que la question intellectuelle qui est la mienne, elle est très claire. Comment peut-on saisir l'émeute comme une épreuve subjective un peu particulière? Qu'est-ce qu'elle dit de notre présent? Qu'est-ce qu'elle dit de notre époque? C'est des questions auxquelles je suis attaché et depuis assez longtemps, et ce livre vient le raconter. Et j'ai besoin effectivement de décrire des scènes où je suis là, des scènes où j'observe, des scènes dans lesquelles en fait, une émeute, vous n'êtes pas obligé non plus de pratiquer en tant que tel l'émeute, c'est-à-dire dans des gestes offensifs, votre corps, l'émeute, cartage de tête, il vous suffit d'être là, quoi, de passer votre corps dans le ici, le moment, et le ici et le maintenant de l'émeute, quoi. Donc voilà, moi je pense que c'est une position très très classique en ethnographie, quoi. C'est une participation qui ouvre évidemment en fait à des moments un peu d'effusion où j'ai été moi-même gagné par ce que j'écris, c'est-à-dire le vertige.
On y reviendra, mais pour qualifier ces émeutiers, donc qui sont souvent vêtus de noir, masqués, casqués, vous utilisez l'expression cortège de tête et vous n'employez pas black bloc. Pourquoi ?
Alors, c'est vrai que j'emploie très peu ce terme, même si c'est un terme qui est devenu assez populaire dans l'espace public et médiatique. Black Bloc, en fait, ne renvoie pas à un groupe spécifique, renvoie à des tactiques, à des façons d'agir, et non, en fait, à des groupes constitués. Cortège de tête, me semblait-il, était assez intéressant comme formulation, puisqu'il est apparu essentiellement en 2016, a réuni quand même beaucoup de personnes, ouais. Et c'était évidemment essentiellement dans le cortège de tête que l'on retrouvait le plus de tentations émeutières.
Alors sachant que la signification des deux expressions n'est pas du tout la même, puisque Black Bloc, de fait, ça fonctionne comme une espèce de mot avec lequel on va aller se rassurer en disant c'est une infime minorité très typée socialement, vestimentairement, etc. et qui n'a rien à voir avec la foule manifestante. Donc on sépare vraiment le propre et le sale, le légitime et l'illégitime. Alors que parler de cortège de tête, c'est évidemment dire que s'il y a la tête, s'il y a les membres, il y a complémentarité, ça n'est jamais autre chose que l'avant-garde du mouvement dans son ensemble. Donc c'est introduire de la continuité là où Black Bloc introduit de la discontinuité.
Oui, vous avez complètement raison en fait dans votre formulation, c'est-à-dire que effectivement parler de Black Bloc, ça serait parler effectivement d'un petit groupe de quelques petits groupes extrêmement constitués. Or là ici, moi ce que je vis dans l'émeute, c'est pas le Black Bloc, c'est-à-dire pas le militant qui est effectivement organisé et préparé à cela.
Depuis les années 80, une nouvelle technique de manifestation est née en Allemagne, les blocs noirs, les Black Blocs. Le but, agir en restant groupés de façon anonyme. Au départ, une volonté, défendre des squats de Berlin-Ouest. Mais rapidement, le combat s'élargit et s'internationalise. Pas de hiérarchie, pas d'organisation. Mais un courant politique semble les rassembler, l'anarchisme révolutionnaire.
Vous venez d'entendre l'extrait d'une vidéo sur les origines des Black Blocs, signée France Info et l'Institut National de l'Audiovisuel, en date du 30 avril 2019.
ce que j'essaie de décrire, c'est une foule assez hétérogène, venant de, que je ne sociologise pas, mais dont on sait évidemment que ça vient de, d'un peu tous les milieux, qui se laisse gagner à un moment donné par la passion émeutière, mais pas forcément en agissant d'ailleurs.
Hein, donc ça veut dire que l'hypothèse, une des hypothèses du livre, c'est qu'il y a, voilà, il n'y a pas cette, ce fantasme d'une petite minorité ultra décidée, qui anticipe, qui sait ce qu'elle fera, etc. Il y a une contagion de l'émeute, comme, comme on disait au début du XXe siècle, et ça peut toucher... voilà, il y a une dimension d'impréparation, c'est, ouais, c'est bien ça l'idée.
Exactement, il y a, à la fois évidemment, il y a des groupes constitués, et en même temps, en fait, ça touche bien au-delà de ces groupes constitués, puisque d'ailleurs, s'il n'y avait pas cet au-delà, s'il n'y avait pas cette foule à côté, évidemment, ces groupes constitués ne feraient absolument rien, quoi.
Votre essai s'intitule « Le vertige de l'émeute ». Vous évoquez aussi, je cite, « l'enthousiasme, la joie, l'ivresse, l'extase même, qui saisit les participants, qui les fait vibrer, qui les fait frissonner. L'émeute, dites-vous, est moins un rapport entre des volontés qu'un rapport entre des corps. Qu'est-ce qui produit réellement cette intensité en tête de cortège ?»
Alors, c'est vrai que vous, par les mots que vous reprenez, ça montre en fait mon intérêt pour la dimension affectuelle de l'expérience. Le grand danger, évidemment, de focaliser l'attention là-dessus, c'est d'esthétiser l'émeute. Ça serait tout à fait problématique, parce que non seulement, en fait, on lui enlèverait son caractère politique, et ça rendrait un peu difficile une analyse plus critique du moment émeutier. Mais quand même, il y a cette idée, effectivement, qu'il y a une chorégraphie qui vient de Thomas Chopin, qui s'appelle le charme de l'émeute, qu'il y a un certain charme de l'émeute et qu'elle suscite effectivement parmi ses affects, et notamment des affects jugés habituellement comme plaisants, cette espèce de joie, cette espèce d'excitation, de contact un peu vibrant au réel. Et il y a cette idée finalement au fond que l'émeute est un événement très mineur, hein, c'est une toute petite scène du politique, finalement pas si intéressante que ça par rapport évidemment à tout ce que le politique propose comme scène, mais dans lequel en fait on va faire une épreuve charnelle du politique, c'est-à-dire que le politique se sent dans le corps, il me traverse. Le politique finalement ici, c'est un moment que je vais rencontrer, pas seulement par le discours, pas seulement par le raisonnement, pas seulement par la réflexion, mais je vais le rencontrer en fait dans cet entre-corps avec les autres émeutiers, et enfin, ou les autres manifestants, pardon. Et ce qui me semble important, c'est que j'essaye de dire que ce vertige naît surtout en fait du moment du débordement et du moment en fait où il s'agit à la fois de faire surgir le pouvoir, habituellement plutôt discret, plutôt invisible, en tout cas insaisissable. Or, dans le moment émeutier, en fait, le pouvoir, il est face à vous. Le pouvoir, en fait, vous le faites surgir physiquement avec les forces de police, par exemple. Il est relativement grotesque, relativement, en tout cas, il est relativement peu discret sur le coup. Enfin, il peut vous toucher corporellement. Et il me semble qu'ici, que c'est une expérience assez inédite, en fait, pour beaucoup de manifestants. Et c'est la possibilité de suspendre, en fait, à un moment donné, les ordres, quoi. C'est-à-dire que dans le renversement, en fait, d'une rue, quoi, dans le retournement d'une rue, c'est comme si, en fait, très très momentanément, les ordres, les lois habituelles étaient suspendues. Évidemment, c'est très très symbolique, hein, tout cela, quoi. C'est-à-dire que ça a des effets substantiels sur le long terme.
Vu de l'intérieur, c'est quoi une émeute réussie ?
Alors, une émeute
bien
réussie...
sûr, je demanderai juste après, ouais. C'est quoi, quand on, vu du point de vue des émeutiers, quand on a raté, etc. Ouais. Mais c'est quoi une émeute réussie ?
C'est une émeute qui déborde, c'est une manifestation qui déborde, c'est une manifestation qui va au-delà, aux côtés en fait des dispositifs institués de sécurité qui instituent déjà le trajet, qui instituent déjà en fait ce que les gens doivent faire, etc. C'est le moment en fait où il y a une espèce de dérèglement en fait, d'imprévisibilité qui fait son droit. Je pense que, et des émeutes réussies, il y en a très très peu. Il y a des moments en fait dans lesquels effectivement l'enthousiasme, il naît où ? Il naît quand précisément ça sent sauvage, quoi.
Alors, sauvage, on pense à Michel Foucault, hein, voilà, aux thèses sur la modernité comme hyper-régulation des corps et des comportements. Et donc là, l'émeute, ce serait ce moment sauvage où les individus s'émanciperaient à tout point de vue, quoi.
Ouais, c'est ça, il y a cette idée d'un élan de spontanéité, quoi. Comme si, en fait, alors, il n'y a pas une spontanéité pure, hein, soyons clairs, mais c'est comme s'il y avait un moment où l'émeutier, c'est celui qui saisit l'occasion, quoi.
Et en même temps, il y a une grammaire de l'émeute qui est extrêmement... enfin, qui est relativement rigide. Alors, il y a une syntaxe, il y a des gestes obligés. C'est aussi, pour parler comme Norbert Elias, une libération très contrôlée des pulsions. Il y a aussi l'art de ne pas aller trop loin.
Complètement. Et d'ailleurs, dans mon livre, j'insiste énormément sur le fait que cette violence est domestiquée et sous contrôle. Effectivement, il y a des règles implicites qui sont relativement partagées et qui font que, par exemple, une des règles assez basiques, vous verrez très très peu d'affrontements quand les forces de police ne sont pas prêtes. C'est-à-dire quand elles n'ont pas mis leur casque. Vous verrez très peu de contacts physiques alors qu'ils pourraient avoir lieu. Ça s'explique par énormément de choses, mais ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas dans un défoulement incontrôlé, qu'on n'est pas dans une sorte de rage incontrôlée où les individus s'adonneraient à des passions destructrices et de violence. Le choix, par exemple, aussi, des cibles, des destructions matérielles, généralement, dans la règle générale, les banques, les agences immobilières, les agences d'intérim, rarement, en fait, d'autres enseignes qui ne seraient pas emblématiques du système capitaliste. Donc, en ce sens, il y a effectivement ces règles. Par contre,
on a vu quelques pillages de grandes marques de vêtements, de chaussures, où là les gens allaient servir. Bon, ok.
Dans les grands magasins, on pourrait dire, parmi les magasins qui sont pillés, ça sera rarement en fait le petit commerçant qui tape au hasard. Et ça peut arriver qu'effectivement dans un moment un petit peu confus. Je l'ai déjà observé en fait des moments où justement la cible a pu être contestée par d'ailleurs d'autres émeutiers en disant non, il faut pas toucher ça.
Et c'est en référence à cette grammaire-là que vous parlez de la dimension politique de l'émeute. C'est-à-dire, c'est pas une colère désordonnée, c'est une colère ordonnée par une idéologie, une doctrine qui désigne des cibles.
Alors, c'est clair qu'il y a une doctrine, il y a des idéologies, il y a des rationalités, en tout cas, qui président. Mais il y a des personnes qui se posent sérieusement la question, est-ce que l'émeute est un moyen politique ? J'aborde pas beaucoup cette question-là parce que c'est déjà assez difficile de répondre à cette question, et puis elle m'intéresse relativement peu. Mais la dimension politique, qui pour moi est très très importante, c'est de dire finalement au fond comment se fait-il aujourd'hui que bon nombre d'individus en fait ne se contentent plus, ou en tout cas éprouvent une certaine lassitude à des formes de manifestations plus classiques, en particulier par exemple des manifestations syndicales, et se laissent aisément convaincre à des moments de débordement. Et pour moi ici, j'essaie de le retraduire avec une crise très ancienne, un très classique qu'on appelle la crise de l'expressivité, quoi. C'est-à-dire le sentiment que pour bon nombre d'individus, à force de mener une vie inexpressive, c'est-à-dire une vie dans laquelle globalement on exprime généralement relativement peu ses qualités, dans laquelle on se reconnaît pas tout à fait dans ce qu'on est en train de faire, que ce soit dans le travail, dans la vie sentimentale, etc. Et l'idée, c'est de dire que cette impuissance, cet impouvoir trouve dans l'émeute une puissance de déclaration, et qu'au fond finalement l'émeutier est l'image, la figure peut-être d'une subjectivité un peu écrasée qui extériorise en fait cet écrasement et qui en demande au monde en fait, qui a un désir de monde extrêmement fort. C'est-à-dire que c'est l'inverse de la gerne nihiliste sur le coup, même si évidemment on peut s'interroger sur la dynamique constructive de ce genre de geste.
On fait une pause musicale, on y reviendra après. Le groupe Skip and Die nous interprète Jungle Riot.
the monkeys are on strike, cause liberty their bush baby. The working ants refuse to pay to save this lost economy. What really is violence? I don't mind the bleeding nose, but I do mind all my children growing up in this world of yours. The people who claim the truth, they will say, fight the enemy. If you stand in the way, we'll find our reason to lock up the enemy. If you poison our minds with your dirty business, say, we're not the enemy. If we have enough cash, we won't make a fuss, we just fight the enemy.
Écoutez Canal B, à l'instant c'était Skip and Die avec le titre Jungle Riot. Aujourd'hui dans votre émission consacrée à la recherche universitaire, nous recevons Romain Huette, maître de conférence en sciences de la communication à l'université Rennes 2. Ses recherches portent sur le rapport entre souffrance et lutte sociale. À l'instant, vous avez pu comprendre la proximité du chercheur avec les situations d'émeutes qu'il observe, la stratégie du cortège de tête et les émotions qui lui sont procurées par le débordement, l'existence de règles dans l'émeute qui semble avant tout être la manifestation d'un désir de monde. À présent, découvrez en quoi l'émeute est semblable à une chasse, avec ses risques encourus. Autre point, leur multiplication pourrait être révélatrice, de façon parfois spectaculaire, d'une rupture dans le dialogue entre citoyens et dirigeants, sans pour autant parvenir à changer le monde.
Alors, Romain Huette, dans le cortège de tête, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a qui ?
Oui, il y a des hommes et des femmes, et il serait difficile en fait de dire très exactement la répartition entre les hommes et les femmes. Ce qui est clair, c'est que c'est des milieux hétérogènes, et notamment au niveau du genre, donc hommes et femmes sont effectivement présents. Mais c'est vrai que dans mon livre, j'en dis rien parce que je fais pas de sociologie des émeutiers, quoi. J'essaie pas de répondre à cette fameuse question, qui sont-ils, quoi.
D'accord. Et qui sont-elles, donc ?
Et qui sont-elles, en l'occurrence ?
Vous avez parlé donc de cet enthousiasme, de cette joie, etc. Vu de l'extérieur, une émeute, c'est aussi beaucoup de choses brutales, illisibles, souvent illisibles. Même si vous dites que la violence n'est pas incontrôlée côté manifestant, etc. C'est aussi un jeu de chat et la souris et de ruse vis-à-vis des donc c'est une dimension très importante, et physiquement et mentalement et collectivement. Mais c'est aussi un jeu à très haut risque, côté manifestant, de se faire cogner dessus, des blessures, des interpellations, des procès, des casiers judiciaires.
Oui, complètement.
Ça peut avoir des conséquences extrêmement violentes.
Oui, bien sûr. Votre observation est très riche parce que elle signale évidemment le danger, hein, de féminiser ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire de faire comme si en fait on n'était que simplement dans un jeu réglé. Non seulement en fait l'émeute produit des choses dans le monde, c'est-à-dire qu'elle crée aussi un climat moral qui s'ouvre davantage en fait à la possibilité de la violence, qui est toujours inquiétant. Deuxièmement, cette idée de jeu et cette idée de chasse, cette idée de proie, c'est une idée très intéressante. On la retrouve chez Chamaillot quand il fait une théorie de la chasse, et il dit voilà, le policier comme chasseur urbain, quoi. Le chasseur urbain d'ailleurs doit éprouver quelques vertiges d'ailleurs dans le moment aussi où il cherche à attraper sa proie, mais les métiers justement c'est précisément la proie, quoi. Et la proie doit trouver toute une série de ruses pour échapper en fait à l'emprise du chasseur, quoi. Et qu'il y a évidemment quelque chose de cet ordre là, quoi. Et c'est intéressant en fait d'utiliser d'ailleurs le terme de ruse et de tactique d'un côté et de stratégie du côté des forces de police, parce que la symétrie en fait entre forces de police par exemple et émeutiers est évidemment radicale, tant d'un point de vue matériel qu'un point de vue de l'information. Et le vertige, c'est pas le moment en fait où il y aura forcément de la violence, c'est le moment où on échappe à l'œil du chasseur, quoi. C'est le moment en fait où on se rend un peu illisible, on échappe finalement en fait à son emprise, quoi. Alors effectivement, par contre, c'est un jeu qui est pas sans conséquence. Alors le danger, évidemment, si on se limitait à l'aspect quasi ludique de l'émeute, ce que j'utilise comme terme, hein, en disant qu'il y a un aspect quasi ludique, ça serait en fait nier le fait qu'il y a des blessures, ça serait nier le fait qu'il y a des poursuites judiciaires, des gens qui feront l'expérience carcérale à la suite de leur participation à des moments émeutiers. Donc c'est un jeu qui n'est pas sans conséquence, quoi. Donc voilà, il faut arriver à essayer de à la fois de faire droit à ce moment un peu joueur, mais ce moment joueur qui reste en fait un moment politique et bien réel, et dans lequel justement les conséquences sont importantes.
Pour préparer cette émission, là, je regardais le site du journaliste David Dufresne, Allo Place Beauvau. Dans les dernières manifs, donc quand même là depuis des mois et des mois, côté manifestants, 316 blessures graves à la tête, 25 personnes éborgnées, 5 avec des mains arrachées. Côté force de l'ordre, il y a eu aussi des blessures graves, etc. Oui, c'est un jeu compliqué quand même.
Oui, bien sûr. Il est très clair que voilà, vous soulignez en fait des conséquences qui peuvent, en tout cas, qui constituent des ruptures biographiques pour des personnes qui sont très très claires. Voilà, quand vous perdez une main, quand vous perdez un œil, etc. Et le travail de Dufresne est très important à ce niveau-là, puisqu'il vient recenser en fait justement précisément ce qui peut arriver.
En réalité, ce n'est plus du maintien de l'ordre, c'est de la répression. En réalité, quand vous utilisez des policiers qui ne sont ni formés, ni entraînés, ni équipés, qui se retrouvent cagoulés, qui se retrouvent sans matricule, qui se retrouvent à masquer les plaques minéralogiques des véhicules de police, on n'est plus dans la police. On n'est plus dans le maintien de l'ordre. On est dans quelque chose qui va vers la milice.
À l'instant, c'était le journaliste indépendant David Dufresne pour l'Obs en novembre 2019.
Alors par contre, en termes de blessures des forces de l'ordre, là aussi, il y a quand même une... Moi, je ne vais pas chercher à dire d'un côté, il y a des...
Non, c'est
mais
par contre,
ce qui est clair, c'est que là aussi, il y a quand même une comment dire, il y a assez peu de blessés du côté des forces de l'ordre. Surtout ces derniers mois, d'ailleurs.
Alors peut-être pour revenir sur ce que je trouve vraiment le plus passionnant dans le livre, c'est toute la réflexion sur l'ivresse de l'émeute. On n'est pas très loin au fond pour mobiliser une catégorie assez classique. On n'est pas très loin, me semble-t-il, du romantisme, hein, c'est-à-dire d'une réhabilitation des émotions fortes, d'une critique de la bureaucratisation et du refroidissement du monde. Moi, j'ai beaucoup pensé à Norbert Elias en vous disant quoi que ce soit pas votre tasse de thé, je pense. En tout cas, il n'est pas trop cité. Voilà, Elias a de belles pages sur le hooliganisme, sur la chasse à courre, etc., comme expression d'une nostalgie chevaleresque, c'est comme ça qu'ils disent, c'est-à-dire le moment où les hommes, étant condamnés à jouer un jeu civilisé, entretiennent ou nourrissent la nostalgie du temps où les émotions premières pouvaient s'exprimer de façon un peu brutale, voire très brutale. Alors il me semble qu'on est un peu dans ce schéma-là.
Norbert Elias en fait m'intéresse beaucoup. C'est vrai que je le mobilise pas dans ce texte parce que ça a été un moment qui a été c'est des lectures qui sont encore d'ailleurs en cours, et notamment sur la question de l'émotion qu'il aborde assez clairement, là où je suis complètement d'accord avec vous sur ce retour en fait de l'argument romantique en politique, et notamment en fait en tout cas très clairement sur la tonalité romantique de beaucoup de revendications politiques aujourd'hui. Je prends un exemple qui est très important. C'est cet appel à la vie, quoi. Cet appel à la densité existentielle, cet appel aux formes de vie. Les zadistes, par exemple, n'ont cessé de dire nous inventons des formes de vie. Nous cherchons en tout cas à penser des vies qui échappent au système capitaliste. La question en fait qui se pose, c'est comment en fait inventer ces formes de vie. Est-ce que les formes de vie qui sont inventées ici ou là dans les marges en dehors du système capitaliste, par exemple, ont un avenir à la fois pour l'individu et pour le monde?
Ça, les... ce qui veut dire que l'émeute est à elle-même sa propre finalité. On passe à côté de la signification de l'émeute si on se pose la question du rapport de force avec les pouvoirs publics, des projets politiques ou des utopies qui sont portées par les groupes. Au fond, il y a dans l'émeute elle-même, en tant que telle, une finalité liée à la jouissance qu'elle procure.
Mais je pense que l'émeute, justement, en fait, coïncide assez clairement, en fait, avec cette attente romantique ou cette tonalité romantique, d'une certaine manière. Parce que les mots que vous avez utilisés, la chaleur, la vibration, l'enthousiasme, effectivement, il y a cette attente un peu d'un moment, en fait, où je fais vraiment l'expérience d'un événement concret, quoi. C'est pas je participe à quelque chose, c'est un événement, il se passe quelque chose, cette expérience elle est en train de me parler, quoi. Elle est en train de me parler, et là en l'occurrence dans l'émeute elle parle à mes nerfs, quoi. C'est-à-dire qu'elle me fait bouger corporellement, elle me traverse, elle va parfois d'ailleurs me faire sortir de moi-même, etc. Et en ce sens-là, évidemment, il y a quelque chose de très romantique si en fait on attend l'émeute pour ce qu'elle produit en fait dans le corps. Et il me semble que c'est très important, et dans le livre peut-être que j'insiste pas assez sur ce point-là, mais qu'il nous faut effectivement ne pas trop non plus, c'est paradoxal, hein, j'écris un livre sur l'émeute, mais en même temps dire voilà, c'est juste une toute petite scène, et si on l'isole complètement de ce qui peut se passer à côté, et notamment en fait des mouvements politiques qui sont en train de se développer, on comprend pas grand-chose en fait au moment émeutier. Et il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est le livre de Marielle Massé, Forme de vie, qui est un livre vraiment intéressant, dans lequel elle essaie de montrer comment en fait le terme de forme de vie devient une catégorie politique importante qui vient mettre en cause notre présent et qui vient imaginer comment on pourrait essayer de penser un monde un petit peu différent que celui qu'on est en train de vivre, quoi. Et je crois que ça c'est un terme, mais il vous suffit de regarder sur les murs, hein. Regardez les graffitis sur les murs, les mots qui sont écrits. Le nombre de mots qui renvoient en fait à une attente de densité existentielle, à la vie, est très très important.
Il n'y a pas de porte-parole chez les émeutiers, il n'y a pas de revendication affirmée comme pour d'autres groupes, par exemple dans les manifs ou en fonction des syndicats, etc. Qu'est-ce qu'ils veulent, les émeutiers ?
Alors je sais absolument pas ce qu'ils veulent, mais par contre ce qui est assez clair, qui est effectivement cette idée d'être un peu illisible, cette idée, alors pour reprendre un terme de Foucault, cette idée d'être ingouvernable, c'est-à-dire finalement au fond de ne pas être tout à fait prévisible, de ne pas être identifié, de ne pas être et c'est pas seulement pour des questions juridiques, hein, c'est aussi pour des questions en fait de troubler le pouvoir qui ne pourra pas en fait avoir une mise sur les personnes. Il y a cette dimension-là qui, moi, je pense, est assez importante. Et il y a le moment, en fait, de l'émeute, qui est un moment, en fait, assez pauvre en discours, assez silencieux. C'est de dire dans le livre, le casseur ne parle pas, quoi. À la limite, ce qu'il parle, ça va être ses gestes. Et je prends un exemple, d'ailleurs, qu'Arendt prenait, elle aussi, dans une réflexion sur la question de la liberté. Une vitre qui se brise. Vous passez derrière le moment émeutier, vous ramassez en fait le bout de vitre, vous avez le bout du pouvoir dans vos dites. L'émeutier propose quoi ici? Un rapport très très oblique à la vérité, c'est-à-dire en fait c'est un rapport qui est olfactif, qui est visuel, qui se joue en fait sur les sens, qui ne dit rien.
Oui, et en même temps, vous insistez aussi beaucoup sur la dimension spectaculaire, alors peut-être au sens de Guy Debord, mais en tout cas Alors moi, j'aimerais bien vous interroger sur la relation aux médias, parce que il me semble avoir compris qu'une des sources de l'ivresse ressentie par les émeutiers était aussi la dimension spectaculaire. Alors spectaculaire, c'est pas uniquement la reprise médiatique, mais ça y participe. C'est aussi le côté bruit, fureur, feu, etc. Enfin voilà, là, une sollicitation des sens, les odeurs, etc. Qui a à voir avec la théâtralité, qui va être amplifiée du coup par les chaînes d'information continue, etc.
Il me semble que le rapport aux médias est de façon générale assez tendu, puisque évidemment les médias vont de façon générale s'appliquer à disqualifier tout ce qui est en train de se passer, ou disqualifier un mouvement d'ailleurs en raison d'ailleurs de la violence.
Oui, mais au-delà de cette tension un peu de surface, est-ce qu'il n'y a pas des...
Mais je pense que, bon point, pour qu'il y ait spectacle, il faut spectateurs. Il me semble que les spectateurs prônés en fait pour les manifestants, c'est justement ceux qui observent dans la rue, quoi. C'est les gens lambda qui sont en train d'observer, parfois qui applaudissent, c'est-à-dire qui applaudissent le moment, par exemple de casse, parfois qui le condamnent, mais qui observent, quoi. Effectivement, il y a cette dimension spectaculaire. Et je pense qu'en fait que la question médiatique. Alors évidemment, avec les gilets jaunes, on a vu énormément de caméras, énormément de journalistes, enfin de personnes qui s'improvisent journalistes, en tout cas qui se font une nouvelle carrière en fait de journaliste à cette occasion. Il me semble que ça perturbe un peu, ça gêne un peu, quoi. Parce que évidemment les caméras, c'est à la fois la possibilité de mettre en spectacle, de mettre en scène, de représenter, mais c'est aussi en fait évidemment des outils qui mettent en danger évidemment
les
personnes qui participent.
C'est aussi les téléphones portables. Voilà.
Oui, et ça chez les gilets jaunes, ça qui est intéressant d'ailleurs avec ce mouvement-là, parce que mouvement des gilets jaunes, enfin qui est intéressant pour moi, c'était justement là des primo émeutiers, quoi. C'est-à-dire des gens qui n'étaient absolument pas préparés à l'idée en fait qu'ils, dans leur première manifestation, qu'ils allaient vivre une expérience émeutière. Et c'est quand même assez intéressant d'aller voir. Ça donnait aussi rapidement à construire des barricades, à essayer de à être dans une logique d'affrontement. Et effectivement, dans ce mouvement-là, les caméras sont omniprésentes. Mais bon, comme dans tout dans tout mouvement un peu long, je le voyais beaucoup dans la guerre, et il y a des professions, hein, la guerre aussi, des carrières, quoi. Et je dirais que je m'excuse de se parler avec la guerre, mais c'est simplement pour dire que un mouvement qui dure plus d'un an, il fait des professions. Vous pouvez être street medic, vous pouvez être celui qui va justement filmer et rendre compte, c'est-à-dire en fait c'est une manière d'être là, d'y apporter sa part, mais en trouvant un rôle.
Des rendez-vous et des manifs, ça s'organise aussi. Alors.
Ben voilà, c'est ouais. Ça, c'est que en fait, les personnes se posent la question aussi de que puis-je faire et comment puis-je trouver une place qui est adéquate vis-à-vis de mon propre rapport à l'événement. Je peux être street medic, c'est-à-dire, mais sans avoir de compétences d'ailleurs médicales en tant que telle. Street medic, c'est les personnes qui viennent soigner les blessures des manifestants. Ça, c'est assez récent. Ouais. Avant, on voyait pas une auto-organisation de la part des manifestants, ce qui nous indique en fait quand même le climat dans lequel on se trouve aujourd'hui dans nos rues, quoi.
J'ai un souvenir d'un très beau graffiti qui a tenu moins de 24 heures à Rennes. C'était « Vive le vent, vive le vent, vive le vandalisme ». J'ai fait juste une photo, j'ai tombé dessus, ça la provoque, mais ça a été repeint quelques heures plus tard. Mais cette expression des émeutiers, il y a quelque chose aussi dont vous parlez, bien sûr, dans votre livre, à la fin. À la fin, c'est la police qui gagne. Il y a un côté impuissant, un côté frustration dans l'émeute. Ça rentre dans l'ordre. Enfin,
un côté loser magnifique aussi.
Mais oui, mais bien sûr, le romantisme et tout.
Non, mais ça, c'est...
Vous citez aussi Victor Hugo qui dit « L'émeute raffermit les gouvernements qu'elle ne renverse pas ».
Oui, alors effectivement, bon, la citation de Hugo peut être un petit peu maladroite, parce que d'une certaine manière, elle voudrait dire que je me positionne clairement sur cette idée. Est-ce que en fait l'émeute favorise le pouvoir, ou en tout cas est-ce qu'elle l'aide à se maintenir, ou en tout cas à se rendre plus fort? Franchement, je suis pas tout à fait capable de répondre à ces questions-là. Par contre, ce qui est...
C'est une vraie question quand même.
Oui, c'est une vraie question, tout à fait. Ce qui est assez clair, c'est que on voit bien que la situation politique qu'on est en train de vivre en ce moment est assez inédite. La façon dont on la traite et la façon dont on s'accorde assez facilement pour essayer de dire qu'il y a une régression de la démocratie, des tentations, entre guillemets, tentations totalitaires, etc. Ça montre qu'en fait, on a objectivé une situation un petit peu sombre d'un point de vue politique, et ça, c'est quand même assez inédit. Et il me semble que les différentes manifestations, et en particulier le mouvement des Gilets jaunes, n'est pas anodin, en fait, dans cette façon dont nous avons, en fait, à débattre de la question politique. Il me semble que les Gilets jaunes, par exemple, ont fait un peu plus que jeter du sel sur le cœur du pouvoir. On fait un peu plus que le griffer. Ils l'ont un peu égaré, ils l'ont un peu effrayé, quoi. Et ça devient immédiatement la perception pour n'importe n'importe qui. Vous allez dans une manifestation aujourd'hui, vous allez voir en fait l'ampleur du dispositif policier, ou d'ailleurs pour les dernières manifestations sur les réformes pour sur la réforme pour les retraites, vous avez en tête de cortège, c'est pas le cortège de tête, hein, c'est les forces de police et l'encadrement en fait de tout le cortège. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe à Paris. Je ne sais pas tout à fait à Rennes. Et qu'est-ce qui advient de la perception ? C'est un espace urbain saturé par des forces de police, c'est-à-dire en fait aussi un pouvoir qui sur le coup se manifeste physiquement, quoi. Évidemment, ce sont des images qui peuvent frapper, ce sont des images qui peuvent étonner, ou en tout cas qui nous incitent en tout cas à réfléchir sur de quoi avons-nous besoin pour maintenir l'ordre dans notre société.
En fin de journée, la police disperse le cortège en centre-ville, derrière la place du Capitole, lorsque ces CRS s'en prennent à cette femme. Sans raison apparente, un premier policier la pousse, puis un second lui fait un croche-pied volontairement. La femme évite de peu le poteau en fer. Une enquête vient d'être ouverte par le parquet de Toulouse, mais dès hier, lors de ses vœux à la police nationale, le ministre de l'Intérieur a haussé le ton.
S'il y a un soupçon, il y aura une enquête. S'il y a une faute, il y aura une sanction. C'est l'honneur de la police qui est en jeu. On ne fait pas de croche-pied à l'éthique.
Extrait d'un reportage diffusé sur BFM TV le 14 janvier 2020.
L'émeute, ça lui fait quoi au pouvoir ? Ça le griffe ? Ça le déstabilise ? Il y a eu des réformes qui ont été amendées, qui ont été mises de côté après des émeutes ou pas ?
Ouais, non, mais
est-ce que de toute façon, pour en particulier le cortège de tête, pour reprendre vos expressions, de toute façon, c'est pas le problème.
Non, mais si on pose la question de l'efficacité de l'émeute, moi je peux en apporter qu'une réponse qui m'est tout à fait personnelle et qui est pas du tout une réponse extrêmement extrêmement réfléchie. Ça ne renverse pas le pouvoir, ça ne me paraît pas être doté d'une efficacité particulière. Mais à la rigueur, ce qui me semble-t-il est intéressant, c'est moins d'interroger en fait les moyens politiques pour obtenir en fait une concrétisation de ces idées que de se poser la question de les manifestations parfois un petit peu justement spectaculaires des attentes politiques et notamment la multiplication des émeutes est une intrigue, quoi. Enfin, doit nous interpeller et se dire, mais tiens, qu'est-ce que ça dit encore une fois de notre époque? Et peut-être, moi c'est un peu une hypothèse que je dis pas beaucoup dans le livre, mais de dire, est-ce qu'on n'est pas ici dans une fin de la politique de la composition, quoi? C'est-à-dire la conflictualité démocratique qui passerait par le langage, qui passerait par toute une série de rationalités. Les gens ne veulent plus parler. L'émeute, on ne fait plus du monde un objet de dialogue. Et ça, évidemment, c'est à la fois le signe de l'inquiétude. Et il y a un autre point que j'insiste assez peu, sur ce point-là. Mais c'est cette quête de monde est tellement vaste qu'elle nous rend évidemment impuissants, quoi. Et comment et ça peut produire d'ailleurs un certain nombre d'angoisses. Et comment domestiquer l'inquiétude vis-à-vis de cette quête non réussie du monde? Eh bien, c'est souvent en se focalisant sur des objets très étroits, quoi. Et je crois que justement dans l'émeute et dans la focalisation que nous faisons aujourd'hui, par exemple sur les violences policières ou sur la conflictualité avec la police, est un signe en fait précisément du rétrécissement en fait de l'action, parce que dans un affrontement avec les forces de police, j'ai les choses entre les mains, quoi. En fait, Or, la quête de monde, dépasse très très largement le moment de l'événement, parce que même si vous réussissez une émeute, il se passe quoi après, quoi.
Sure.
Ouais, et puis si on peut dire que la succession des mouvements, le mouvement des Gilets jaunes d'une façon générale sur des dizaines et des dizaines de samedis, effectivement ça griffe, alors moi je dirais pas le pouvoir en général, je dirais le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, etc. Ça affaiblit le macronisme, pour parler du point de vue de ma discipline qui est la science politique. Mais en revanche, ça griffe pas du tout l'État comme institution. Et je crois que c'est intéressant de faire la distinction entre ces deux niveaux. C'est-à-dire l'État en tant qu'institution qui monopolise la violence légitime, l'État en tant qu'en dernière instance, il est l'usage de la force. Eh bien là, incontestablement, là je rejoins ce que vous dites, la société a changé parce que, à l'échelle d'une ville comme Rennes, c'est très frappant, nous avons désormais appris à nous promener le samedi après-midi dans Rennes en voyant les forces de police. la présence là, en termes d'expérience. Mmh. Alors il faudrait renvoyer, opposer à l'expérience subjective de l'émeutier, à l'expérience subjective de l'homme ou de la femme de la rue. Et effectivement, il y a une... Moi, je me rappelle le moment où on a commencé à voir des policiers en armes à la gare Montparnasse, par exemple. C'était un moment de grande rupture, de choc biographique. Mmh. On avait l'impression... C'est quelque chose qu'on avait vu pour les gens de ma génération, qu'on voyait dans les films, mais qu'on ne voyait pas dans la réalité. Or là, de ce point de vue-là, il y a toute une série de cliquets qui ont sauté, quoi.
Et voilà, moi, c'est ce genre de transformation dont je parle. C'est moins l'avènement d'un monde nouveau, d'un monde autre, etc., que l'objectivation, en fait, d'un certain nombre de ces évolutions, et en particulier l'obligation pour l'État de déployer une certaine force pour maintenir l'ordre, pour maintenir sa population. Et ce qui me paraît être une période très très particulière que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
Est-ce que des policiers, des CRS, des gardes mobiles ont lu votre livre ? Vous avez eu des retours ?
J'en sais absolument rien. J'en ai pas eu de retour, mais je serais tout à fait intéressé je fais l'hypothèse que pour un certain nombre d'entre eux, et en particulier d'ailleurs pour les groupes qui ont beaucoup plus de liberté, en tout cas les plans leur donnent droit à la spontanéité. Je prends l'exemple de la BAC ou de la Brave, etc., qui sont des brigades extrêmement mobiles et dans lesquelles en fait on confie beaucoup de on leur donne
l'analyse
beaucoup de liberté.
Est transposable de l'autre côté.
J'en sais rien, mais je fais quand même un peu l'hypothèse qu'il y a un certain vertige qui pourrait être éprouvé. Je vous donnais un exemple qui est un peu drôle. C'était à la fin d'une manifestation de gilets jaunes sur les Champs-Élysées. J'étais un petit peu fatigué parce que la journée avait été très très longue et j'étais assis comme ça, et juste à côté de moi j'avais il y avait les forces de police qui allaient évacuer en fait la rue, donc ils se préparaient. Puis bon, moi je discute avec le policier qui était à côté de moi. Je lui dis ça va, comment s'est passée la journée. Je sous-entendais, alors c'était bien. Il me dit demande à ma femme si c'était bien. Je lui dis pourquoi. Il me dit ouais, samedi, etc. Je dis ah oui, si c'était mardi ça serait un peu mieux. Et il me répond ah bah oui, carrément. C'est à dire qu'au fond, ce que je lui demandais, c'est est-ce que tu préfères maintenir l'ordre d'une manifestation de retraités ou ce qui se passe aujourd'hui. Bon, très clairement il préférait ce qui se passait ce jour-là, sauf que ça l'embêtait un petit peu que ça soit le week-end quand même. Et c'est vraiment un exemple, je le prends pas au sérieux, c'est vraiment pour plaisanter, mais ça serait je sais pas du tout comment
ça c'est indicible, hein. C'est absolument indicible, on peut pas parler en ces termes là de l'exercice de la force de l'État.
Non, surtout c'est que pour en dire quelque chose d'un peu sérieux, eh bien il faudrait être en leur sein et faire exactement la même chose mais du côté des forces de police, quoi. Et là on aurait un certain nombre de réponses, quoi. Après on peut simplement observer quand même un certain nombre de brigades, et en particulier bon, la BAC est particulièrement visée et la Brave également, parce que des comportements extrêmement un peu arrogants, ça cherche aussi le contact, hein, ça cherche le jeu, hein. Il n'est pas rare, hein, de voir des incitations des policiers qui font bien plus que maintenir l'ordre, hein, qui annoncent leur le moment, enfin je sais pas, je prends l'exemple de, j'ai fini en as la semaine dernière dans une manif des gilets jaunes, et le policier qui me ramène pour me faire sortir du périmètre, eh bien il me dit ah, samedi prochain, tu vois, samedi prochain on va bien se marrer, etc. C'est des choses qui arrivent de façon anecdotique, c'est-à-dire pas systémique, de façon anecdotique, et qui est vécue quand même par pas mal d'individus. En tout cas j'aurais plein d'exemples à donner, mais on peut pas en faire une théorie, hein, c'est pas...
Dernière question, vous allez continuer vos recherches dans ce domaine-là ou vous passez carrément à autre chose ?
Disons que moi je dirige une recherche sur les violences de façon générale. Alors moi ce qui m'intéresse, je pense pas continuer à écrire sur la question émeutière, parce que c'est pas non plus celle qui m'intéresse le plus aujourd'hui, quoi. Mais par contre effectivement continuer à essayer de réfléchir sur la violence, ce qu'elle nous dit en fait de notre présent et sur la façon dont on se laisse assez aisément gagner par des pratiques violentes, une question très très ancienne et moi qui me passionne, et donc j'aimerais travailler beaucoup plus sur des terrains d'insurrection comme je l'ai fait en Syrie, mais peut-être dans d'autres endroits.
Romain Vett, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Le vertige de l'émeute, de la ZAD aux gilets jaunes, aux éditions au PUF. L'ouvrage coûte 14 euros. Merci beaucoup nos deux réalisatrices, Lucie Louapre et Léna Plumer-Chabot. Rendez-vous dans un mois pour Chercheurs en ville sur Canal B.